Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition Géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Relégué au second plan ces dernières années au profit de l'automobile et de l'avion, le train fait son retour. Il faut dire que son bilan carbone est plutôt flatteur, 3,37 grammes de CO2 émis par passager au kilomètre contre 110 pour la voiture et entre 73 et 254 pour l'avion. Le train entre donc en parfaite résonance avec le défi climatique grandissant. Et pour l'Europe, une libéralisation du secteur. La période de grandeur du rail fut le 19e siècle, mais après un creux de vague, le train se voit aujourd'hui placé au cœur des enjeux géopolitiques. Pour le fret comme pour les passagers, ce mode de transport a le vent en poupe. Cette relance néanmoins ne se fait pas sans heurts. Le système ferroviaire comme expression d'une puissance, d'une domination sur un territoire, enjeu de rivalité, regard sur le grand jeu ferroviaire qui se met en place avec nos invités Jean-Jacques Hervé, conseiller du commerce extérieur de la France, président de l'Académie de l'agriculture de France, ancien conseiller agricole près l'ambassade de France à Moscou et ancien conseiller du gouvernement ukrainien pour les questions agricoles, auteur d'un article sur la question ferroviaire et l'Ukraine, paru tout récemment dans le quotidien Le Monde. Bonjour.
Bonjour.
Et Antoine Péqueur, journaliste, auteur d'un atlas de la culture et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, de géopolitique du rail, le train au cœur des enjeux contemporains, paru aux éditions Autrement. Bonjour.
Bonjour Marie-France, bonjour à toutes et à tous.
Leadership de la Chine, relance des infrastructures aux États-Unis, plan de l'Union européenne pour développer le fret, nouvelles lignes africaines, le ferroviaire est en pleine renaissance. Et sur le continent européen, la question du rail trouve toute son actualité avec la guerre en Ukraine et les tentatives de mobilisation du rail pour écouler les stocks de céréales. Ce conflit entraîne depuis plusieurs mois une fermeture quasi totale de la navigation en mer Noire, avec deux conséquences majeures. En premier lieu, une baisse drastique des ventes de produits agricoles qui pénalise fortement l'Ukraine, et avec des implications dramatiques pour de nombreux pays qui manqueront dans les prochaines semaines du blé qu'ils doivent importer pour boucler leur bilan alimentaire. Ce qui se passe en Ukraine révèle-t-il des négligences européennes sur le plan ferroviaire? Je ne sais pas qui souhaite commencer. Jean-Jacques Hervé.
Je vais dire un mot. Oui, je pense que l'Europe administrative, la Commission, a encouragé avec les grandes institutions financières internationales une sortie de la production agricole ukrainienne à l'exportation, qui est la vocation de ce territoire très agricole et très peu peuplé, via la mer Noire. Et en oubliant qu'il y avait des réseaux de chemin de fer. Et une singularité que l'Europe n'a peut-être pas analysée convenablement, qui est qu'il y a d'un côté un système soviétique, avec des trains avec des écartements plus larges, et puis de l'autre côté un système européen. Mais il y a en Ukraine, on semble découvrir, des gares dites de contact, où des voies sont parallèles et permettent du transbordement. Et donc, on a complètement négligé cette voie qui aurait sans doute permis, associée à la valorisation de cette formidable voie de communication intra-européenne qui est le Danube, aurait permis de faire sortir le grain d'Ukraine alternativement à la mer Noire via les ports de l'Allemagne du Nord, de l'Atlantique et de la Méditerranée.
Alors, Antoine Péqueur, sur cette question, précisément.
Effectivement, les freins sont multiples aujourd'hui à l'exportation des produits ukrainiens par le rail. La différence d'écartement, c'en est une. Alors, effectivement, on peut soit transborder, c'est-à-dire passer d'un wagon à l'autre, et on peut aussi changer les bogies des trains. Oui. Ça, c'est valable avec la frontière polonaise uniquement. Mais en fait, dans tous les cas, il y a un manque criant aujourd'hui, dramatique, de matériel. En fait, il n'y a pas suffisamment de wagons pouvant accueillir des céréales. Et donc, aujourd'hui, tout simplement, les convois sont stoppés, sont bloqués à la frontière ukrainienne parce qu'il n'y a pas ces wagons-là. Ce manque de matériel, il est terrible quand on parle avec les différents opérateurs parce qu'aujourd'hui, différents convois de ce type-là sont déjà réservés par d'autres entreprises. Et donc, d'où l'appel, évidemment, à l'Union européenne de ce plan de fret ferroviaire pour développer cet aspect-là. Mais vous l'aurez compris, les freins sont énormes et d'un seul coup, l'Ukraine se met un peu à découvrir aussi ce fret ferroviaire. Mmh. Alors, l'Ukraine a une compagnie qui est puissante. C'est le premier employeur du pays, la compagnie chemin de fer ukrainienne. C'est le troisième réseau en termes de taille d'Europe. Mais c'était surtout un réseau destiné au transport passager. Et donc là, au niveau du fret, il y a aussi de nouvelles habitudes à prendre. C'est un grand challenge pour les chemins de fer ukrainiens. Et donc, face à cette question de matériel, là, aujourd'hui, il y a urgence.
Mais il me semble que le
Jean-Jacques Hervé.
Oui, bien sûr, le réseau de chemin de fer ukrainien que j'ai beaucoup fréquenté est un réseau passager, mais il y a aussi beaucoup de transports de fret à cause des bassins industriels du Donbass. D'une part, historiquement, de Krivoy Rog, et puis des échanges sur l'ensemble du territoire. Et même si le train fait moins que le camion, le train fait quand même beaucoup.
Et moi, les céréales, il n'était pas.
Non, parce que la raison est très simple, c'est que à partir du moment où il y a une sortie mer Noire et où on peut par des trains qui vont vers le sud charger des bateaux de 50 000 tonnes, pourquoi s'embêter à charger des wagons de 60 tonnes? Et donc, on les charge pour aller sur des ports, vers la mer Noire. Mais si on avait une vision européenne de l'Ukraine, on aurait déjà anticipé l'harmonisation du réseau ferroviaire. Moi, j'ai été frappé, vraiment saisi par le fait qu'on n'avait aucune vision de cette nécessité de wagons. J'ai posé la question à des logisticiens français. Connaissez-vous le nombre de wagons céréaliers disponibles? Non. Non. Personne ne semble savoir où sont les wagons. Ils sont répartis dans des compagnies, ils sont l'objet de contrats à terme de location, etc. Donc on ne sait pas où ils sont, on ne connaît pas la disponibilité.
La seule solution, ce serait une décision politique qui demanderait à ce que ces opérateurs qui ont des wagons déjà réservés annulent ces réservations pour les mettre au service des céréales ukrainiennes.
Ce que vous dites est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'on a un besoin fort d'une décision politique en disant il faut sortir ce grain, il faut le sortir maintenant, il faut le sortir au prix où il a coûté plus ce transport, et ce qui serait possible, parce qu'on assiste aujourd'hui à une double erreur de ce fait, c'est que ça anticipe, ça augmente la spéculation sur les cours. On a frôlé les $450 la tonne de blé, d'un blé qui a été produit en Ukraine à 100-120 $. Donc on a une énorme marge disponible pour pouvoir anticiper. Et même si on espère tous que la mer Noire va se débloquer, il reste que associer le train à de l'exportation par l'Atlantique, ça reste du bon sens pour eux. Et c'est sans doute une étape pour une intégration européenne concrète de l'Ukraine.
Précisément, pourquoi les politiques ont, d'après vous, tant tardé à prendre conscience du potentiel du développement qu'offre le ferroviaire? Pourquoi a-t-on, c'est une question de prix aussi, effectivement, le bateau qu'on souligne, l'avion, enfin, Antoine Pecker.
Alors moi, j'aimerais donner un exemple un peu franco-français, mais qui est intéressant et qui va peut-être faire réfléchir. Un certain Emmanuel Macron, quand il était à Bercy, ministre de l'économie, avait piloté, je ne sais pas si vous vous rappelez, les fameux cars, qu'on appelait les cars Macron.
Il a supprimé les trains de nuit.
Il a supprimé les trains de nuit. Et quelques années après, le même Emmanuel Macron, dans un discours du 14 juillet, appelle à relancer les trains de nuit. Moi, je m'interrogeais un petit peu quand même sur ces politiques à court terme. Comment, en 2016, à Bercy, on pense réellement qu'il faut supprimer les trains de nuit? Et ça, pour moi, c'est une erreur fondamentale que la France a faite, d'autres pays, l'Allemagne également, un pays n'a pas fait ça. Par exemple, l'Autriche. C'est l'Autriche qui a relancé les trains de nuit.
Absolument.
Et qui est maintenant avec une longueur d'avance. Parce qu'on rejoint exactement la discussion dont on parlait, c'est notamment la question du matériel. Parce qu'avoir des wagons, commander des wagons par exemple pour les trains de nuit ou pour le fret, ça prend du temps, ça prend énormément d'années. Et donc maintenant, l'Autriche se retrouve à avoir un matériel bien plus avancé qu'on a, nous, en France, et donc on est obligé, la SNCF, mais aussi la Deutsche Bahn en Allemagne, de faire des partenariats avec ÖBB, c'est le nom de la compagnie autrichienne, pour pouvoir relancer l'offre de trains de nuit. Mais on est dramatiquement en retard.
Oui. Est-ce que vous pensez que, précisément, ce que l'on vit avec la guerre en Ukraine va constituer une sorte de tournant
on
sur
peut
cette
l'espérer.
Prise de conscience, Jean-Jacques Hervé?
Je suis un peu pessimiste, moi, parce que je constate, comme mon interlocuteur dans cette table ronde, que la mode du très court terme, c'est même pas du court terme, c'est du très très court terme, et du ultra-libéral financier l'emporte sur une vision rationnelle, sur une vision d'ingénierie du transport. Moi, je regrette infiniment le temps où je pouvais, partant de Paris, prendre le train de nuit pour ma petite ville d'Aurillac, où j'arrivais le matin à 6h, mais le train nous laissait en gare jusqu'à 8h, pratiquement. Donc on pouvait avoir une nuit complète. On allait dans le café d'en face, on avait un autobus pour monter dans notre vallée. Je vivais sans voiture. Et je vis toujours sans voiture. Mais c'est beaucoup moins pratique parce que maintenant, je n'ai plus de train de nuit pour aller à Aurillac. Et j'ai combien de fois utilisé le train de nuit en Ukraine? C'est un mode de transport extraordinaire, très confortable.
Vous écoutez RFI Géopolitique.
Alors, quant à... Oui,
et peut-être par rapport à l'Ukraine, juste dire aujourd'hui, il y a quand même quelques pistes qui pourraient peut-être permettre un développement, cette exportation hein, dont on parlait des marchandises et qu'on peut peut-être très rapidement évoquer. Mais il y aurait une piste de relier l'Ukraine à un port situé en Lituanie. Le seul hic et non des moindres, c'est qu'on passe par la Biélorussie.
Oui, parce que la Biélorussie est alliée de Moscou.
Évidemment, mais ça permettrait de garder le même écartement, bien évidemment, et d'avoir un accès maritime. Ouais. C'est une sorte de projet de corridor ferroviaire, mais très complexe d'un point de vue géopolitique et géoéconomique. Et l'autre possibilité, vous l'avez rapidement évoqué, mais c'est par le sud, par le Danube.
Mais bien sûr.
Et d'avoir, mais pour l'instant, d'un raison de sécurité, notamment les opérateurs de fret sont très frileux à aller dans cette partie-là. Mmh. On a vu ce qui se passe notamment à Odessa actuellement. C'est beaucoup de questions.
Alors, on va reparler du train, parce que tout le monde n'est pas comme l'Europe et certains pays ont pris conscience de l'importance du ferroviaire. Mais juste, j'ai d'abord cette question sur l'écartement des rails. C'est une spécificité européenne que cette différence d'écartement de rails entre, alors, moi, j'ai souvenir, entre la France et l'Espagne. Oui. L'Espagne qui avait peur d'être envahie. Et c'est la même chose donc entre l'Ukraine et les autres pays européens. Je veux dire, si je prends un train en Amérique latine, je n'ai pas ce problème entre la Bolivie et le Pérou, ou bien qui peut me répondre
je pense qu'il faut se rappeler qu'en Europe, on a eu une très grande diversité d'écartements de rails pendant très longtemps, des tout débuts du chemin de fer jusque dans les années, la fin du 19e siècle, parce qu'il y avait des écartements très larges. La ligne de Sceaux, par exemple, c'était, 1600 mm. Et donc, il y a eu un effort d'harmonisation parce que les compagnies ont compris que pour que les voyages se fassent dans le continent, d'Ankara ou d'Istanbul jusqu'à Londres ou le nord de l'Écosse, il fallait une unité d'écartement. Et donc, il y a eu une prise de conscience commerciale, en quelque sorte, sur un schéma de développement et sur une perspective de voyage à l'intérieur de ce continent européen. Là, on est confronté avec l'Ukraine au fait qu'il faut élargir. Moi, je suis aussi très sceptique sur les deux couloirs dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire le couloir maritime mer Noire protégé par les Turcs, et puis le couloir ferroviaire via la Lituanie, enfin via la Biélorussie et la Lituanie. Donc je pense que nous avons intérêt à nous préparer, à nous dire, nous allons intégrer d'une manière ou d'une autre l'Ukraine. Par conséquent, nous n'allons pas changer les écartements comme ça instantanément. Le troisième réseau d'Europe, qui est celui de l'Ukraine, est extrêmement dense, il est même remarquable. Je crois qu'il a une grande valeur en termes de contribution à l'environnement, à la réduction des effets de serre, des gaz à effet de serre. Donc il faut le conserver comme ça. Et il nous faut simplement réfléchir à d'autres choses. On a transporté des grains pendant très longtemps dans des sacs qu'on chargeait dans des wagons. Et donc on pourrait très bien transporter les grains dans des conteneurs qui sont plus faciles à transférer. Mais aujourd'hui, dans l'urgence, moi je vois très bien sur les gares dites de contact, les 6 gares de contact à la frontière de l'Ukraine avec le réseau européen, je vois très bien sur les d'abord prolonger peut-être de quelques dizaines de mètres les rails à l'écartement européen qui ferait défaut parce qu'on a abandonné ces gares. Et puis mettre une flopée sur un train de 20 wagons, ben on met 20 bandes transporteuses comme on en utilise dans toutes les fermes partout en Europe. Et ça, on ne doit pas en manquer des bandes transporteuses pour charger d'un wagon à l'autre. Et au lieu d'avoir une capacité d'1,4 million de tonnes par mois de transfert par le réseau ferroviaire sans le Danube, eh bien, nous pourrions arriver à 3 ou 4 millions de tonnes. Alors, ce qui est tout à fait significatif, parce que 3 ou 4 millions de tonnes, c'est proche du chiffre des exportations mensuelles maritimes de l'Ukraine.
Alors, les idées sont là, mais est-ce que l'Europe a les moyens, d'après vous, est-ce qu'elle a ce qu'il faut pour pallier la situation d'urgence actuelle à propos de l'Ukraine ? Antoine Péquer.
Alors, on voit que l'Europe avait avancé quand même en termes et avec cette compréhension que les différences d'écartement, c'est un symbole géopolitique. Je pense au projet Rail Baltica. Le projet Rail Baltica, c'est relier la Pologne jusqu'à la Finlande, et en tout cas à travers tous les pays baltes, de telle sorte à faire Varsovie-Helsinki en passant par Tallinn, Riga et ainsi de suite. Et donc de permettre un axe passager, fret, avec l'écartement européen. C'était une manière pour les pays baltes de sortir de leur dépendance à la Russie d'un point de vue ferroviaire, un vaste projet, hein, évidemment d'un point de vue sonnant et trébuchant, avec notamment au bout la question de la création d'un tunnel sous-marin qui serait le plus grand tunnel sous-marin au monde, allant de l'Estonie à la Finlande, financé
sans passer par la Russie.
Exactement, sans passer par la Russie, financé par qui ? par la Chine, qui se retrouve évidemment
le
là-dedans.
Le tunnel seulement.
Le tunnel seulement, mais qui se trouve là à avoir un débouché pour ces fameuses routes de la soie. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, ce grand axe commercial chinois, eh ben lui aussi, il se trouve impacté directement par la guerre en Ukraine. Et on voit qu'il y a beaucoup moins de marchandises qui prennent aujourd'hui ces trajets-là entre la Chine notamment et l'Europe du fait de la guerre.
Je ne suis pas sûr que l'Union européenne mesure bien ce qui se passe. Parce qu'il y a aujourd'hui d'autres voies. Il y a le trans-Kazakh, le train qui passe par le Kazakhstan et qui rentre en Chine et qui ensuite peut aller jusqu'à Aktao, le port maritime, avec au travers de la mer Caspienne, un transfert pour rejoindre une partie accessible à l'Europe. Et donc, on voit bien qu'on a des voies ferroviaires que nous n'avons pas assez regardées. Et par ailleurs, comme le dit notre interlocuteur, il est clair que sur les États baltes, on pourrait sans doute construire un axe ferroviaire à l'écartement européen. Ce serait une mesure d'intégration à l'Europe incontestable. Je suis même étonné qu'on n'y ait pas pensé plus tôt.
Et ce projet de Rail Baltica, il est financé très largement. On parlait de la Chine, mais uniquement sur la question du tunnel.
Sinon, c'est l'Union européenne.
C'est l'Union européenne.
C'est l'Union européenne aussi. L'Union européenne qui finance, par exemple, le tunnel pour le fameux Lyon-Turin.
Oui,
donc,
absolument.
On retrouve l'Europe pour notamment le financement de ces grandes infrastructures. Avec quand même effectivement un retard, mais on voit notamment dans tout ce plan mis en place pendant la crise sanitaire, combien il faut aujourd'hui un rattrapage en matière ferroviaire. Donc ces infrastructures, c'est une partie. Certains plaident même pour des connexions encore mieux pensées entre les capitales européennes. En tout cas, je pense qu'il y a une réflexion fondamentale. N'importe qui aujourd'hui prend au courant de cet été le train, voit que les trains sont bondés parce que les gens prennent le train, on ne peut que s'en réjouir. Peut-être le mot suédois de Flixcam, hein, la honte de prendre l'avion, d'un point de vue écologique, commence à prendre son effet. En tout cas, on voit que post-crise sanitaire, le train se porte très bien, mais maintenant, il faut l'accompagner encore plus politiquement.
Et l'Union européenne s'est d'ailleurs donné comme objectif de doubler d'ici à 2030 la part du transport de marchandises sur rail. Évidemment, les obstacles sont nombreux.
Les obstacles sont innombrables.
Jean-Jacques Hervé.
Si on regarde simplement la France, quand on discute avec les logisticiens du transport des céréales, les négociations d'une région à l'autre pour concevoir les sillons ferroviaires, c'est épouvantablement long, extrêmement compliqué. Et donc, on voit bien qu'on a besoin d'une autre vision de l'organisation de ces transports. On ne peut pas les laisser dans un no man's land. Et on a le devoir, sans doute, d'être innovant et de concevoir que ça peut s'allier aussi avec les voies fluviales. Moi, je pense beaucoup à l'intermodal, mais d'une façon concrète. Je m'étonne dans les canaux français, les canaux allemands de petit calibre, qu'on ne se dise pas avec l'informatique, le guidage par les satellites et l'autonomie qu'on peut donner à ces matériels d'avoir des petites péniches qui transporteraient 3-4 000 tonnes, c'est-à-dire 10 wagons sur des trains d'eau. Et donc on peut imaginer un couplage du canal du Berry avec le réseau ferroviaire. Il faut avoir une vision.
Moi,
je crois qu'il y a un pays qu'il faut regarder. Alors, pour le coup, qui n'est pas dans l'Union européenne, c'est la Suisse.
Ah, bien sûr.
Parce que la Suisse, c'est un modèle en matière ferroviaire. C'est le pays avec le Japon, hein, ils sont à peu près à égalité, où il y a la part la plus importante de population qui prend le train. Et ce qui est passionnant, c'est de voir pourquoi ça fonctionne. Alors, notamment en termes passagers, c'est le cadencement, c'est la régularité, la ponctualité. On sait ces grands atouts, mais c'est aussi cette question du fret. Allez en Suisse et vous verrez que les camions, vous n'en voyez presque pas sur les autoroutes parce qu'ils traversent le pays sur les voies de fer. C'est un pays qui a été confronté, de par sa situation géographique, au cœur de l'arc alpin, à cette question environnementale. Et ils ont compris qu'effectivement, il fallait investir le ferroviaire. Donc prenons exemple notamment sur la Suisse, je parlais du Japon aussi à l'autre bout, qui est un pays aussi très ferroviaire, et inspirons-nous de ces pays-là, plutôt que regarder certaines politiques ultra-libérales. J'avais envie de rebondir, parce que quand on voit certains, on parlait des trains nuit et d'une stratégie complètement inverse en l'espace de quelques années, quand on regarde par exemple en Afrique les rapports de certaines agences de développement qui préconisaient de supprimer, d'enlever les rails dans certains pays, je pense à ces grandes agences, conduites avec des politique incroyable, n'est-ce pas ? Et qui aujourd'hui les mêmes disent, ah ben non, investissez le ferroviaire. Vaut mieux ne pas rire à ce moment-là.
Oui, je suis très frappé, moi.
On poursuit dans la deuxième partie de l'émission. On vous retrouve, Jean-Jacques Hervé, avec Antoine Péqueur après le journal. À tout de suite.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
Regard sur le train. Nous retrouvons nos invités. Jean-Jacques Hervé, conseiller du commerce extérieur de la France, président de l'Académie de l'agriculture de France, ancien conseiller agricole près l'ambassade de France à Moscou et ancien conseiller du gouvernement ukrainien pour les questions agricoles et auteur d'un article sur la question ferroviaire et l'Ukraine paru tout récemment dans le quotidien Le Monde. Et Antoine Péker, journaliste, auteur d'un atlas de la culture et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, de géopolitique du rail, le train au cœur des enjeux contemporains, paru aux éditions Autrement. J'ai quelques chiffres pour démarrer cette deuxième partie de l'émission. La France, le fret en France, c'est quelque chose d'assez compliqué. En préparant cette émission, j'ai relevé des éléments tout à fait intéressants. Le transport ferroviaire de marchandises a chuté de 40% en 30 ans. On a une infrastructure plutôt vieillissante et surtout des ports mal connectés au réseau. Alors Jean-Jacques Hervé, dans la première partie de l'émission, vous parliez de la nécessité de faire du lien entre les fleuves et le ferroviaire. En moyenne, en France, 10% des marchandises à destination ou en provenance des ports en France transitent par le rail contre une marchandise sur trois pour le port d'Hambourg. Oui. Commentaire,
nous payons, je pense, je me rappelle, moi j'étais à ce moment-là conseiller au ministère de l'Agriculture pendant la grande grève, pendant le premier de l'an, je ne sais plus quelle année, 80 quelque chose.
96,
peut-être avant même, avait bloqué complètement les possibilités d'amener les produits frais dans la capitale. Et ça a eu un effet énorme. Un effet psychologique et un effet économique énorme. C'est-à-dire que plein de gens qui faisaient de la logistique ferroviaire avec des wagons frigo et des wagons en transfert direct, rapide, sont passés au camion. On a développé des flottes de camions à ce moment-là. Et donc, on a un retard à combler. Et ça, c'est un peu spécifique à la France quand même. Hein, parce que la situation des ports du Havre ou de Dunkerque ou de Rotterdam ne sont pas sensiblement différentes. Simplement, Rotterdam a misé sur une logistique multimodale et pas le Havre et pas Dunkerque, qui n'ont pas vu l'intérêt d'avoir ce
ni
système.
Ni Marseille. Antoine Péker.
Et il faut repenser l'offre de fret. Pendant très longtemps, c'était une entreprise qui devait remplir un wagon entièrement. C'était ce principe. Aujourd'hui, on commence à questionner de pouvoir partager ce type de wagon. Je pense notamment à une coopérative qui s'appelle Railcoop, qui aujourd'hui, vous savez, il y a une privatisation complètement française. Il y a une privatisation du rail et notamment, bien sûr, du fret. Une coopérative qui s'appelle donc Railcoop et qui a lancé, on est entre Toulouse et une ville à peu près une centaine de kilomètres, une première ligne, en repensant justement cette offre de fret où on peut partager un wagon avec différents opérateurs pour être plus souple, mieux répondre aussi aux besoins de l'époque, parce qu'on voit aujourd'hui que tout le défi, c'est ce fameux aussi dernier kilomètre pour l'accès aux marchandises, cette complémentarité bimodale, ultramodale qu'on a aussi évoquée. Mais en tout cas, je crois qu'il y a de nouveaux acteurs, c'est très intéressant, parce qu'évidemment, on peut questionner cette question de la privatisation, et par rapport au service public, on peut comprendre les inquiétudes quand on voit l'exemple anglais. Bien sûr, il y a des jurisprudences terrifiantes. Mais il y a aussi un appel d'air, des initiatives, je trouve, favorables. Je pense à cette coopérative ferroviaire Railcoop, je pense à Midnight Trains, par exemple, qui veut relancer les trains de nuit à travers l'Europe en repensant cette offre, en rendant les trains de nuit plus agréables. Donc, il y a aussi beaucoup de choses à suivre. En tout cas, je pense que les prochaines années, elles vont être terriblement excitantes pour le ferroviaire et son offre, que ce soit fret ou passager.
Est-ce que en France, on peut dire aujourd'hui que finalement, la SNCF, donc la Compagnie Nationale des Chemins de Fer, a trop misé sur la ligne grande vitesse?
Ça, c'est sûr. À mes yeux, c'est vraiment évident. C'était une espèce de folie de vouloir, dans un système en toile d'araignée, avec au centre Paris, organiser des choses comme ça. Quand on voit le trafic pour aller de Nantes à Lyon en passant par le sud de Paris, ça défie un peu l'entendement. Parce qu'on se disait, on fait rouler des TGV sur le Val-de-Loire et on peut traverser pour aller en Bourgogne ou pour aller sur la région lyonnaise. Donc je pense qu'on a une vision très centralisatrice, totalement dépassée par rapport à la notion de réseau, précisément. C'est-à-dire de points nodaux qui maillent en quelque sorte le territoire. Et alors, il y a une chose qui me frappe, c'est qu'on considère que tous les investissements qui ont été faits au 19e siècle en particulier pour la construction du plus grand réseau ferroviaire d'Europe, qui était celui de la France, ça vaut zéro. Ça ne vaut plus que les dépenses d'entretien. La valeur, c'est négative. Ah, le viaduc de Saint-Jacques-des-Blats. Mais ça coûte une fortune, le viaduc de Saint-Jacques-des-Blats, en entretien. Donc, si on pouvait fermer la ligne d'Aurillac à Clermont-Ferrand, ce serait formidable. On économiserait cette somme. c'est aberrant. Ça veut dire qu'on n'a pas vu qu'il y a une valeur capitalisée. On devrait, dans la comptabilité nationale, valoriser ces énormes travaux, ces tunnels, ce passage dans la vallée de la Serre, par exemple. Exceptionnel.
Donc un grand gâchis.
Un grand gâchis.
Antoine Péquer.
Je pense qu'on touche, en matière ferroviaire, aux limites de la politique du en même temps. Quand Emmanuel Macron arrive, au début de son premier quinquennat, très clairement, il dit « arrêtons la grande vitesse, on va de nouveau se concentrer à nouveau sur les autres lignes, justement, ce maillage du territoire ». Mais à la fin de son quinquennat, il y a un anniversaire, les 40 ans du TGV, haute déclaration à ce moment-là d'Emmanuel Macron vers la gare de Lyon, où il annonce relancer certaines lignes à grande vitesse. Aujourd'hui, cette politique du en même temps, elle est intenable. Il faut repenser, c'est aussi une question philosophique, cette question de décroissance, accepter aussi qu'un trajet en train prenne du temps. Parce que si on pense le train écologiquement, il ne faut pas penser le train avec construction de nouvelles infrastructures. Non, parce que là, ce jeu-là, ça ne fonctionne pas du tout, l'argument écologique. Il faut utiliser, comme on l'a dit, ce qui est existant, repenser l'offre. Et d'ailleurs, la SNCF l'a bien compris, puisqu'il relance notamment des Ouigo classiques sur les lignes classiques des trains pour prendre plus de temps. Et on voit aussi le succès en Allemagne de cette offre à 9 € par mois sur les lignes régionales. Donc les gens acceptent de prendre le train et que ça dure plus longtemps, avec évidemment un intérêt économique plus que jamais d'actualité à l'heure des craintes sur l'inflation.
Et quand vous dites que c'est plus de temps, c'est pas beaucoup de temps en plus.
Exactement.
Parce que ces nouveaux Ouigo, j'en ai pris un il n'y a pas très longtemps pour venir de Rennes à Tours, ce sont des trains qui vont à 160 et 180 km à l'heure et que rien n'obstrue. Donc il n'y a pas d'embouteillage. Et par conséquent, ça prend peu de temps.
Par rapport à des axes saturés comme entre Paris et Lyon,
absolument,
par exemple.
Alors, on va élargir le propos, si vous voulez bien. On a commencé à parler de l'Ukraine, de la Russie. J'aimerais comprendre aujourd'hui qui sont les grands champions dans le monde du ferroviaire. Je voulais revenir sur l'Ukraine et parler de la Russie. La Russie fait partie des pays qui ont bien compris l'importance du rail. Annexion de la Crimée en 2014. L'Ukraine bloque les connexions entre la partie continentale et la péninsule de Crimée. Résultat, de l'autre côté de la péninsule, les Russes font un grand pont et font partir des trains depuis la Crimée qui vont jusqu'à Saint-Pétersbourg. Ça n'est pas une exception dans le monde, mais en tout cas, c'est un élément intéressant. Vous avez quelque chose à nous dire, Jean-Jacques Hervé, sur ce...
Bon, je pense que la Russie a effectivement de tout temps compris que son territoire étant absolument immense, c'est quand même le plus grand pays du monde, il est absolument capital de garantir la circulation sur ce territoire. Et donc il y a deux conséquences. La première, c'est qu'on a consacré beaucoup d'argent, l'emprunt russe en particulier, mais pas seulement, le budget russe et le budget soviétique auparavant, pour entretenir le transsibérien. Et avec la Chine, la Russie a compris qu'il y avait quelque chose de supracontinental à intégrer avec trois au moins grands canaux ferroviaires. Et par conséquent, le deuxième aspect, c'est qu'au-delà de l'investissement, il y a aussi une idée du tarif. Pour la Russie, il est capital que la cohérence du territoire se traduise par un coût acceptable du transport sur ces grandes distances, aussi bien pour les passagers que pour le fret. Ce qui n'est pas le cas toujours chez nous, où on a des prix qui sont quand même dissuasifs et qui n'ont rien à voir avec, en effet, le rapport des émissions de gaz à effet de serre des différents moyens de transport.
Alors, les tarifs, l'Allemagne a fait quelque chose d'incroyable ce printemps et cet été. C'est des voyages, je ne sais pas si c'est fonction aussi de la distance à parcourir, en tout cas 9 € pour les Allemands et prendre le train, Antoine Péquer.
On voit évidemment cette volonté louable, salutaire, d'inciter la population à prendre le train d'un point de vue écologique et avec cette offre économique. On imagine l'investissement public considérable de la part du pouvoir public allemand. Mais attention, une fois encore, il n'y a pas le matériel suffisant. Et aujourd'hui en Allemagne, qu'est-ce qui se passe dans les gares? C'est la police qui doit limiter l'accès à bord des trains. Les gens doivent attendre 2 voire 3 rames pour pouvoir enfin monter à bord d'un train. Il y a d'un seul coup des sites protégés qui se retrouvent envahi par des milliers de personnes du fait de cette offre ferroviaire. Donc je pense qu'elle n'a pas été complètement anticipée d'une certaine manière, mais c'est sûr qu'aujourd'hui la question des tarifs, elle est centrale. On a vu certaines limites à la tarification dynamique pratiquée par la SNCF sur le modèle de l'aérien, ce qui fait aussi aller de plus en plus les gens vers les lignes classiques où les tarifs peuvent être évidemment moindres. Donc je pense qu'il y a une grande réflexion là-dessus, mais ne pas oublier que le train, ça coûte énormément. Tous les acteurs, notamment privés, qui se lancent là-dessus le mesurent, parce qu'il y a aussi une question, on pense bien sûr au coût des rames et ainsi de suite, mais il y a le coût des péages. Et notamment en France, on a des coûts des péages très cher. On pourrait débattre des heures qu'il y a SNCF Réseau et que la SNCF doit payer à une autre branche de la SNCF le coût des péages. Mais regardez en Italie, par exemple, le coût est beaucoup moindre des péages. Et l'Italie est un pays qui fonctionne très bien aussi d'un point de vue ferroviaire.
Géopolitique.
Alors, on va parler de la Chine. La Chine, c'est, je l'ai lu dans votre ouvrage, Anton Pecker, Géopolitique du rail, 80% du réseau mondial de lignes à grande vitesse. Est-ce que la grande rivalité entre la Chine et les États-Unis se retrouve aujourd'hui et dans quelle mesure sur les questions ferroviaires ?
Ah ben ça c'est clair,
Anton
ça c'est
Pecker.
Ce qui est intéressant, vous l'avez dit, 38 000 km hein, de lignes à grande vitesse, l'essor de la Chine en matière de grande vitesse ferroviaire, il est stupéfiant. Il faut voir comment au début les acteurs occidentaux pensaient pouvoir s'installer et ils ont été très rapidement copiés et puis dépassés évidemment à une vitesse folle. Et donc le train c'est aussi bien un axe fondamental au sein même des frontières, tout simplement pour une raison simple, les couloirs aériens sont saturés en Chine, donc il faut bien mettre la population, la faire déplacer par le train, et c'est aussi un axe à l'assaut du monde, on en a rapidement parlé, les fameuses nouvelles routes de la soie. Face à cela, vous avez les États-Unis qui très longtemps, c'était un pays pionnier en matière ferroviaire, mais après l'a complètement oublié au profit de l'avion puis de la voiture, et vous avez l'arrivée au pouvoir de Joe Biden. Joe Biden, c'est un amoureux du train. Tellement qu'on le surnomme Amtrak Joe. Amtrak, c'est le nom de la compagnie ferroviaire américaine. Il lançait ses campagnes électorales depuis une gare. Il prend lui-même le train pour aller à Washington. C'est une pratique très rare aux États-Unis, où si le fret est développé, le trafic passager l'est très peu. Et donc là, il voit évidemment qu'en face, la Chine a développé cette offre ferroviaire. Et dans le cadre de la rivalité sino-américaine, il veut rattraper le retard. Il lance ce fameux plan ultra-keynésien des infrastructures, consacre beaucoup au ferroviaire.
80 milliards de dollars.
Alors vous savez, il y a eu beaucoup de débats, notamment sur les montants, ce qui a été au final accepté par le Sénat et ainsi de suite. Mais une chose est sûre, c'est qu'il veut mettre à la fois l'accent sur les lignes à grande vitesse. Il rêve même d'une transaméricaine de redévelopper ça. Il a confié le ministère des Transports à Pete Buttigieg, qui était l'un de ses rivales dans la course à la primaire démocrate. C'est vous dire l'importance. Mais malheureusement, nonobstant tout ce tropisme de Joe Biden pour le ferroviaire, il est trop tard pour les États-Unis. La Chine est le leader incontesté, et le retard aujourd'hui, les États-Unis ne peuvent pas le rattraper. Il suffit de voir les errements du projet de TGV de ligne à grande vitesse en Californie pour se rendre compte des nombreux obstacles qui existent aujourd'hui. Et effectivement, si le fret, lui, est remarquablement développé aux États-Unis, avec une connexion notamment du Canada au Mexique. Il faut aussi interroger aujourd'hui le rôle du train dans la politique migratoire, parce que vous savez, énormément de migrants, de réfugiés qui viennent d'Amérique centrale et d'Amérique latine prennent le train, notamment ces fameux trains appelés la bestia, la bête. Énormément meurent en route, tombent des trains. Il y a des agressions d'une violence sans nom à bord de ces trains. C'est quelque chose qu'on connaît encore trop peu, un peu documenté par des rapports d'organisations consacrées aux droits humains. Mais je pense que là aussi, il ne faut pas oublier cet aspect-là du train. On a parlé de différents aspects, mais il y a aussi, comme moyen aujourd'hui pour les migrants de s'échapper de leurs conditions, ils prennent le train au péril de leur vie.
Donc gros avantage de la Chine dans la rivalité avec les États-Unis sur les questions ferroviaires. Est-ce que, et parce que le projet des routes de la soie, c'est plus un projet d'ailleurs, c'est une concrétisation qui, comme les racines, les rhizomes, se construit jour après jour. Est-ce que c'est un aspect qu'on n'a pas vu, nous Européens, cette importance que la Chine voyait dans le ferroviaire, la Chine, enfin je veux dire, voilà, est-ce qu'on a laissé passer des trains?
Mais je pense que ce que disait tout à l'heure notre interlocuteur est tout à fait exact, c'est-à-dire que on a pensé qu'on était très fort, qu'on était plus fort que tout le monde, en particulier en France, et on n'a pas vu que l'intelligence des Chinois, si elle est la même que la nôtre en proportion, s'applique à une population d'1,3 milliard ou 1,5 milliard d'habitants. Donc il y en a quand même beaucoup plus que chez nous, des intelligents. Et des intelligents qui pensent et qui sont dans un système où le collectif a un sens, où le communautaire a un sens. Et nous, on phosphore sur l'idée d'une comptabilité verte, sur l'idée d'un retour aux valeurs du bien commun. Mais pour le moment, rien dans la comptabilité nationale ne permet de chiffrer le bien commun. Le chemin de fer n'est pas un bien commun. C'est, oui, ce serait bien que ce soit bien commun, mais ça n'est pas comptabilisé comme un bien commun. Et dans les intérêts privés, moi j'ai été frappé aux États-Unis par les énormes progrès qui ont été faits dans le fret, et notamment dans le transport des céréales sur l'ensemble du territoire productif, pour ramener dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions de prix les céréales vers les ports du Golfe du Mexique. Et nous n'avons pas fait, nous, cet effort. C'est la croix et la bannière pour constituer en France des trains de céréales pour rejoindre les quelques ports qui sont petits finalement. Les ports sont restés petits par rapport à Rotterdam, par rapport à Anvers, par rapport aux ports d'Ukraine. Le plus grand port français fait quelques 5 ou 6 millions de tonnes. Mmh. C'est un opérateur sur les 10 qui sont sur l'estuaire du Dniepr ou sur la côte ukrainienne. Donc on n'a pas une vision géographique suffisamment claire. Mmh. Et je suis frappé qu'en France, quand on interroge les Français pour dessiner les contours de l'Europe, il y a un nombre de fautes absolument incroyables. Mmh. Dès que ça s'éloigne de la Belgique et que ça s'éloigne un peu des côtes de l'Espagne, on ne connaît plus. Donc on n'a pas une vision géographique de notre position sur un continent. On ne se voit pas dans ce continent, on ne se projette pas dans les déplacements à l'intérieur de ce continent et avec les continents voisins.
Alors la Chine, véritable volonté politique, les routes de la soie, on en a parlé, j'aimerais qu'on dise deux mots sur l'Afrique et notamment l'Afrique de l'Ouest peut-être. Le concurrent de la Chine en Afrique de l'Ouest, ça n'est pas l'État français, c'est un entrepreneur français, c'est Vincent Bolloré,
et voilà, Antoine Péquer. C'est Vincent Bolloré, ou plutôt c'était Vincent Bolloré, puisque vous l'avez vu, il cède maintenant ses actifs en Afrique. Alors c'est vraiment une histoire incroyable, on s'y attarde juste quelques instants, mais Bolloré, effectivement, a misé notamment sur le rail, d'un point de vue logistique, hein, la connexion au port, on l'a dit, au Cameroun, et puis il avait surtout ce projet de boucle ferroviaire, de pouvoir aller d'Abidjan à Cotonou, en passant par le Burkina Faso. Ce projet de boucle ferroviaire, il s'est heurté très rapidement, évidemment, à différents obstacles, et notamment à la présence de la Chine. La Chine ultra présente, la fameuse Chine-Afrique, elle passe par le ferroviaire, par la relance de lignes, là aussi dans un but de connexion au port, et de pouvoir avoir le meilleur accès aux matières premières. Ce qui est intéressant, c'est que donc là, Vincent Bolloré cède ses actifs en Afrique, et il les cède à qui ? Il les cède à MSC, qui est l'un des plus grands armateurs au monde, et donc qui va reprendre la gestion, notamment de ces lignes de train, des lignes de train qui avaient été compliquées, on parle de la boucle ferroviaire, mais aussi au Cameroun, un accident tragique qui avait coûté la vie à des dizaines, voire même des centaines de personnes. Donc aujourd'hui, il y a vraiment une politique ferroviaire en Afrique à repenser. Donc maintenant, on va voir ce que MSC va le faire. On est au
compagnie
tout début...
qui n'est pas française.
Exactement.
Italienne.
Voilà. Alors vous le savez, lié notamment pour des liens de parenté à un certain Alexis Kohler, mais ça c'est un autre débat et nos amis de Mediapart en ont pas mal parlé. Mais en tout cas, je pense que cette dimension-là, on rejoint la question de l'intermodal, du maritime avec le ferroviaire, cette connexion-là, elle est centrale.
Absolument.
Et c'est pas un hasard si aujourd'hui MSC reprend les actifs de Bolloré en Afrique. Je vous l'ai dit, les prochains mois et les prochaines années vont être décisives.
Alors ce qui est intéressant, c'est que j'avais compris moi que c'était les actifs portuaires de Monsieur Bolloré en Afrique qui étaient repris par MSC, en ignorant que le ferroviaire également faisait partie du lot. Jean-Jacques Hervé.
Oui, moi je voudrais revenir sur ce multimodal, parce qu'on a considéré, je me rappelle, il y a 30 ans maintenant, en France, le multimodal, c'était les camions. C'était les camions. Et c'est pas du tout du multimodal. C'est-à-dire qu'on a mis de côté les canaux, on a mis de côté le chemin de fer, et voilà. Et donc on est invité aujourd'hui à repositionner les choses. On peut pas continuer d'avoir une compagnie chemin de fer qui se vit comme si elle devait être une compagnie aérienne, avec des chefs de bord, avec des... Voilà, vous comprenez ce que je veux dire, tout le vocabulaire, quoi. Et puis, totalement étanche à ce qui se passe à côté. Il ne s'agit pas de mettre les camions dehors, mais on peut imaginer que les camions remontent sur les trains. Parce que c'est pas compliqué. Ce sont des ingénieurs français qui ont inventé, il y a plus d'une cinquantaine d'années, peut-être 90 ans, ont inventé ces wagons plats dont le dessus se déplace en épi, de sorte qu'on peut charger plusieurs camions en même temps sur un train sans rentrer par un bout du train pour aller jusqu'au bout et
comme
remplir comme ça. Donc on avait toute la compétence pour gérer du multimodal, camion, train, train, péniche, péniche, mer, port maritime. Le port de Sète est formidable de ce point de vue en France. C'est un port fluvio-maritime parce que c'est le canal du Midi et puis c'est la Méditerranée. Et on ne valorise pas. Et il y a le train. Et on ne valorise pas.
Bon, il y aurait eu beaucoup d'autres choses à dire sur le train. En tout cas, le sujet était passionnant. Merci à chacun. Jean-Jacques Hervé, je rappelle que vous êtes conseiller du commerce extérieur de la France, président de l'Académie de l'agriculture de France, ancien conseiller agricole près l'ambassade de France à Moscou et ancien conseiller du gouvernement ukrainien pour les questions agricoles, auteur d'un article sur la question ferroviaire et l'Ukraine paru tout récemment dans le quotidien Le Monde. Et Antoine Péquer, journaliste, auteur d'un atlas de la culture et, pour ce qui nous intéressait aujourd'hui, de géopolitique du rail, le train au cœur des enjeux contemporains, paru aux éditions Autrement, Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. À très bientôt.